des infirmiers communautaires qui ont appris des infirmières qui sont compétentes, qui vont faire de telle sorte que plus la maladie est dépistée tôt, plus la prise en charge est organisée tôt, et mieux l'enfant traversera la barre fatidique de 5 ans, et mieux l'enfant vivra. Alors, donc moi, pour vous témoigner, j'ai des patients de drépanocère qui ont plus de 70 ans, qui sont des cadres, qui ont contribué de nouveau dans ce pays. J'ai des mamans de drépanocère qui ont plus de 60 ans, qui certains ont eu 5 enfants, d'autres 6 enfants. J'ai une maman de drépanocère qui a eu des triplés, et ces triplés ont seulement plus de 15 ans. Donc le problème du mythe de l'âge là, c'est terminé. Parce que dans les centres urbains, que ce soit en RDC, à Brazzaville, au Gabon, en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Sénégal, dans les pays où les gens sont pris en charge correctement, les gens vivent mieux parce qu'on connaît mieux la maladie, on explique mieux les conséquences de la maladie, on prend des précautions tôt, puis il y a des traitements innovants, des méthodes thérapeutiques innovantes qui permettent d'assurer aux patients de drépanocère une meilleure vie.
En parlant de précautions, quelles sont certaines précautions qu'on peut prendre pour éviter de transmettre cette maladie aux enfants?
Bon, pour éviter de transmettre cette maladie aux enfants, c'est le problème de ce cancer génétique. C'est-à-dire, la mutation, le gène, il existera toujours. On ne peut pas le faire disparaître. Ce qu'on peut faire comme effort, c'est prendre des mesures pour empêcher de former, pour empêcher de donner naissance aux enfants qui ont des formes totales de la maladie. Donc, votre émission, c'est une émission qui est bienvenue parce que par rapport à l'information, à la sensibilisation qu'on donne, j'espère que les compatriotes africains et ceux qui sont aux États-Unis ailleurs, qui savent qu'ils portent un gène drépanocytaire pour le savoir, il faut d'abord se faire dépister. Ils connaissent quels sont les risques quand on s'accouple à une personne qui est hétérozygote. Le risque, c'est qu'on peut faire un enfant qui est homozygote. À partir de là, si c'est compris, on est capable d'empêcher les naissances de formes homozygotes. Deuxième situation, ça dépend des contextes culturels de législation d'État à État. On ne va pas vraiment empêcher aux autres de se marier. Parce que vous pouvez aller dans la rue, personne n'a une hémoglobine affichée sur son visage, qu'il est AS hétérozygote. Donc à partir de là, la science a fait que on peut dépister l'anomalie anormale avant la naissance. Donc ça signifie que si on fait des prélèvements chez la femme en grossesse, ici d'un couple à risque, AS par exemple, si on fait ce qu'on appelle le diagnostic prénatal, on fait le prélèvement avant la 12e semaine de la grossesse, il sera possible de savoir quel sera le futur génétique de cet enfant avec une précision d'environ 99%. Dès lors qu'on sait que l'enfant qui va naître sera une forme totale, une forme partielle, une forme normale, à partir de là, ça dépend de la législation de quel pays, de chaque pays, parce que vous savez que je ne peux pas aborder ce sujet ici, parce que pour des considérations religieuses, des côtés éthiques, nous n'avons pas proposé aux gens de faire des interruptions de grossesse. Mais ça dépend de la législation de chaque État et de la volonté du couple. Donc on peut prévenir la naissance des formes totales, qui sont des formes homozygotes. Également, l'avenir a été fait qu'on peut actuellement, petit à petit, peut-être dans 10 ans, on aura l'espoir, manipuler les gènes. On peut manipuler les gènes anormaux pour faire que ces gènes disparaissent. Ça fait partie de certaines techniques de traitement qui peuvent se faire précocement ou même automatiquement après la naissance, qu'on appelle la thérapie génique, pour empêcher la naissance des formes homozygotes. Le plus important, c'est ça. Donc, l'effort, la sensibilisation que les pays ont reçu limité comme les nôtres au courrier, c'est faire le dépistage précoce. Chaque personne qui va se marier, si la législation autorise, on devait faire ce qu'on appelle un test prénuptial pour ne pas amener les couples qui portent le gène à donner des formes homozygotes. Dans d'autres pays comme l'Arabie Saoudite et les Émirats, ils ont pris des mesures draconiennes qui posent des problèmes d'éthique qui ne peuvent pas être appliquées à tous les pays. On interdit carrément le mariage entre des formes hétérozygotes. Vous savez, chez nous en Afrique, ce serait difficile, et même dans les pays européens, d'empêcher à deux personnes qui s'aiment de ne pas se marier pour des raisons génétiques.
Merci beaucoup. Alphonse Mwaki a une autre question. Il se dit, il semble que si l'on élimine tout le sang d'une personne atteinte de la drépanocytose et qu'on le remplace par un autre, le patient peut guérir de cette maladie incurable. Est-ce que cette assertion est vérifiable?
Bon, je crois qu'il n'a pas tellement compris. Lorsqu'on fait ce qu'on appelle un échange de sang, vous savez, on ne peut pas remplacer totalement le sang d'une personne. C'est impossible. On le fait par étapes. On fait ce qu'on appelle des échanges transurbains partiels. Le globule rouge, il vit 120 jours. Donc, ça suppose que si j'ai échangé le sang d'une personne, en 120 jours, il reconstruit son propre sang, puisque la mutation existe toujours. Mais cependant, quand on fait la greffe, c'est-à-dire la greffe de cellules souches, qui provient de la moelle osseuse. On peut, lorsqu'on a une forme d'un enfant qui est homozygote, une forme totale, prouver que l'enfant est moins de 15 ans. Si dans la famille de cet enfant, il y a d'autres enfants, donc il est possible de trouver dans la famille une personne qui a le même groupe de globules blancs que l'enfant qui atteint des drépanocytoses. Si on lui fait la greffe, c'est-à-dire on tue la moelle osseuse du patient receveur qui est le patient drépanocyte total et on lui injecte les cellules souches qui peuvent la moelle osseuse d'un donneur qui est sujet AS ou AA. À partir de là, on change l'hémoglobine totale SS du patient pour rendre ça donc une hémoglobine normale. Il devient donc un sujet normal AA.
Nous avons une question qui vient de Bamako, c'est Samba Traoré qui demande. Il dit, je suis drépanocytaire, je suis de type SC, mais je constate que je fais moins de crises douloureuses par rapport aux autres types SS. Pourquoi cela?
Bon, ça s'explique parce que l'hémoglobine C n'a pas les mêmes manifestations que l'hémoglobine S. Cependant, lorsque l'hémoglobine C s'allie avec l'hémoglobine S, ça devient ESC, on les considère aussi comme des syndromes de drépanocytaire majeurs. Pourquoi? Parce que les crises qu'ils vont présenter ne sont pas les mêmes crises que le sujet SS. Lorsque le sujet SC porte l'hémoglobine C, les manifestations cliniques qu'ils présentent sont souvent les manifestations qui atteignent les yeux, qui atteignent le cœur et le poumon. Alors que les manifestations cliniques du sujet S sont les manifestations sévères, quand il fait des crises, soit il fait des anémies très sévères, soit il fait des crises de douleur parce que la circulation est ralentie au niveau des extrémités, comme je vous l'ai dit, parce que l'hémoglobine S anormale, en absence d'oxygène, se roule autour d'elle-même et peut boucher les vaisseaux sanguins du ventre, des articulations, des extrémités, des articulations, qu'on appelle les extrémités osseuses, et faire des crises de douleur. Donc oui, il a raison s'il ne peut pas, parce que l'hémoglobine C, associée à S, n'a pas le même profil clinique que le patient qui est SS. Et même dans les gens qui sont SS, ça dépend de certaines formes génétiques. Cependant, ces patients qui sont SC sont à risque. Il faut surveiller attentivement leur taux d'hémoglobine, parce que lorsque l'hématocrite de ces patients monte, le sang est plus épais et plus visqueux et très dangereux que le sujet qui a la forme S. Et à partir de ce sang visqueux, il peut entraîner des conséquences au niveau du poumon qui peuvent aller jusqu'à une défaillance du cœur. Ça peut boucher les vaisseaux de la rétine et rendre le patient aveugle. Et ça peut entraîner tout un tas de complications vasculaires que l'on ne retrouve pas spécifiquement sur le patient qui est SS. Il en est de même du patient qui est CC, donc qui est un patient de patient voltaïque original, et que ce patient a une hémoglobine C anormale, c'est une forme homozygote, mais ce patient ne feront pas les crises telles que les corps de patient qui est drépanocytaire, qui a l'hémoglobine S.
Une autre question qui vient de la RDC, cette fois c'est Louba François et Théodore Mwamba. Ils disent qu'il peut arriver que l'enfant naisse dans un endroit où il n'a pas été dépisté. Est-ce qu'il y a des signes qui peuvent alerter les parents que cet enfant est atteint de drépanocytose?
Bon, l'idéal, c'est renforcer le système de santé au niveau des centres de santé africains. Parce que ça, c'est la traduction de la faiblesse du système de santé. On ne peut dépister la drépanocytose que si on fait des tests. Tout le reste n'est que supposition. Alors, ça veut dire que cet enfant peut naître dans une localité, dans un village reculé. Le sang peut finir, on va dire que c'est le sorcier. Il peut grandir, il a des grosses plaies qui apparaissent au niveau des jambes, on va dire que c'est le sorcier. Cet enfant peut avoir d'autres formes de révélation de la maladie. Il a une érection douloureuse, qu'on appelle le priapisme aigu, qui va le rendre impuissant ultérieurement, on va dire que c'est le sorcier. Et c'est celui qu'il faut éliminer. Donc, c'est une structure sanitaire d'amener l'offre de soins vers la périphérie. Ce sont des maladies chroniques et sont génétiques. Ça fait partie des maladies non transmissibles. Il est important que ces maladies soient dépistées. Et les seuls tests peuvent être faits. Il y a des tests indirects qui peuvent permettre de dire oui, cette hémoglobine est en train de s'enrouler en absence d'oxygène. À partir de là, ça peut être une drépanocytose. Au stade où nous sommes au 21e siècle, il serait encore aberrant de rester à dire qu'on va suspecter la drépanocytose. Le plus important, c'est que le système de santé va se renforcer pour amener l'offre de soins et dépister ces maladies. Voler les dépistés tôt pour assurer une meilleure prise en charge et permettre à ces êtres de vivre comme tout le monde.
Étant donné que la drépanocytose est une maladie à vie, est-ce que la prise en charge est accessible à tous les malades?
Bon, malheureusement, ça c'est le problème encore du système de santé, madame. Parce que pour une prise en charge accessible, il faudrait la maladie soit dépistée d'abord. Donc, il faudrait qu'en Afrique, à l'image de certains pays qui ont déjà fait des poids, qui ont fait des avancées, il est important qu'on mette un problème visé au système de couverture sanitaire universelle. Et c'est la couverture sanitaire universelle qui est la base de la meilleure prise en charge de toutes les maladies chroniques. Donc, le problème de la drépanocytose est que c'est une maladie qui est chronique. De plus en plus, les gens vivent longtemps et mieux, je dis bien mieux, avec cette maladie. Donc, par conséquent, il faut garantir à ce type de maladie chronique une prise en charge par l'accès aux soins facilités. Et quand on entend qu'en Afrique, ce genre de maladie touche de plus en plus les populations vulnérables, celles qui ont moins d'informations, celles qui ont moins de moyens. Donc il faudrait que dans chaque système de santé, on développe des capacités pour assurer la prise en charge de ces maladies de longue durée. Si la maman et le papa qui sont pauvres, ils ont 4 ou 5 enfants drépanocytaires à gérer, ce que nous trouvons encore dans nos pays, sur 7 enfants, il y a près de 4 ou 5 sur les formes totales de la maladie. Et c'est lourd si ce sont des pauvres paysans qui n'ont pas de moyens. Et si vous pensez que ces enfants qui doivent vivre dans un village, qui se cachent, qui sont stigmatisés, où les gens créent des doutes, est-ce que ces enfants iront longtemps? À partir de les gens vont continuer à avoir la même caricature de la maladie que celle qui est décrite il y a 25 ou 30 ans, alors que les choses ont beaucoup changé. Donc tout ça, c'est le renforcement du système de santé qui doit permettre à ce que toutes les populations aient droit à la santé, parce que ça fait partie du droit à la vie.
Est-ce qu'il y a des conseils que vous pouvez donner aux malades qui peuvent suivre au quotidien pour améliorer leur santé?
Voilà, donc au Centre national de référence à la drépanocytose, donc un être sur le sol du couvé, nous avons élaboré près de 10 à 11 règles d'or que nous communiquons à chaque patient qui vient au premier contact. Donc ce sont des règles essentielles qui permettent à l'enfant d'avoir une meilleure vie. Je n'ai pas dit que si l'enfant respecte strictement ces règles, il n'aura plus de complications. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais ça permet de minimiser les complications, de limiter l'ampleur des complications et d'assurer la prise en charge de cela. La première des règles, c'est le dépistage précoce. Il s'adresse à la communauté, il s'adresse aux parents. Donc il faut que les enfants soient dépistés. Pour qu'ils soient dépistés, depuis la naissance, chaque enfant qui naît, il fallait obligatoirement faire une électrophorèse d'hémoglobine. Ça, c'est un examen qui doit être fait systématiquement pour dépister la maladie. Deuxième règle, il faut que si l'enfant a une forme totale de la maladie, qu'il soit vu régulièrement par le médecin, je pèse mes mots, régulièrement, et par le même médecin. Parce que ce médecin connaît le profil de cet enfant, il doit connaître quels sont les signes d'alerte. Et régulièrement, ça veut dire que avant l'âge de 5 ans, l'enfant doit être vu tous les 2 mois en consultation. Entre 5 et 10 ans, il peut encore être vu tous les 2 mois. Mais après 10 ans, c'est-à-dire qu'à l'âge adulte, il faudrait qu'une fois par trimestre, ce patient consulte son médecin. Ça, c'est des règles importantes qu'il faut faire pour éviter les problèmes d'automédication, d'autotraitement qui amènent des complications fatales. Donc, il faudrait que l'État crée les conditions pour que ces enfants aient ce suivi régulier. Troisièmement, il faut une prophylaxie contre l'infection. Parce que derrière l'infection, il y a la fièvre. La fièvre entraîne quoi? Elle entraîne une diminution de l'eau dans l'organisme. Or, la diminution de l'eau, excusez-moi, je vais être un peu technique, entraîne ce qu'on appelle une augmentation du risque d'acidose. C'est-à-dire, l'enfant a beaucoup plus d'acidité d'organisme. Or, quand il y a d'acidité, l'oxygène n'est pas correctement transporté au tissu. Donc, il faut qu'il fasse face à la fièvre. Donc, on doit lutter contre le paludisme, par exemple, qui est la première prévention qui entraîne les fièvres ici chez nous en Afrique noire. Il faut vacciner l'enfant pour éviter que l'enfant tombe sous le coup des infections, parce que les infections ne sont pas bonnes pour la drépanocytose, parce que ça désature l'oxygène, ça entraîne des fièvres, ça entraîne des complications qui vont donc avec ce patient qui a déjà une immunité faible. Du fait qu'il est avec une rate qui ne fonctionne pas bien, parce que la rate a subi beaucoup de mouchons, à partir de là, il risque de s'infecter rapidement et avoir des infections graves. Donc la vaccination. Et le paludisme, c'est la moustiquaire imprégnée avec un insecticide et des règles d'hygiène qu'il faut lutter. Il faudrait que cet enfant soit déparasité systématiquement. Il y a une hygiène de vie où l'enfant doit éviter toutes les circonstances qui lui privent l'oxygène. L'effort physique intense. C'est pas qu'il ne doit pas faire les tests, l'enfant doit faire les tests. Il faut que les parents s'entendent avec l'éducateur pour qu'on autorise à l'enfant de faire la gymnastique, parce que le muscle de l'enfant doit se développer. Il faudra pas lui donner son pied complètement qui étouffe à partir de là, parce que le manque d'oxygène, et, ou alors qu'il dorme avec un ventilateur, parce que le ventilateur leur donne du vent. Ça ne donne pas d'oxygène. Et ça leur prive d'oxygène. Donc il y a d'autres mesures qu'il faut prendre pour éviter de désoxygéner le patient et faire que les complications puissent avoir lieu. Il doit s'hydrater. Pourquoi? Parce que son sang a besoin de l'eau pour que le sang soit un peu plus fluide, pour que l'eau là aille correctement et distribuée dans les tissus et faire que les tissus ne soient pas secs. Parce que quand ils sont secs, ça entraîne la fluidité, ça entraîne le manque d'oxygène et ça entraîne des complications de la maladie. Il y a par exemple la consommation de fruits, de fromages qui sont importants ou de lait, parce que ça permet de renforcer les os de l'enfant et faire que l'enfant soit moins susceptible aux infections et les os soient assez durs pour mieux se défendre. Il est possible que je n'ai pas pu citer.
Merci d'avoir répondu aux questions de nos auditeurs. Nous vous remercions beaucoup.
Vous suivez Votre Santé, Votre Avenir sur VOA Afrique.
Vous venez de suivre notre entretien avec le professeur Alexis Elira Dokekias, hématologue et directeur général du Centre national de référence de la trypanocytose de Brazzaville. Et maintenant, place à Carnet de santé qui vous est présenté par Linor Moudou.
Cette semaine, dans Carnet de santé, accident vasculaire cérébral ou AVC. Deuxième cause de mortalité dans le monde et dans les pays en voie de développement. Un AVC est le résultat de l'interruption de la circulation sanguine dans le cerveau. Que faire en cas d'AVC? Quels sont les signes qui ne trompent pas? Dans cette édition de Carnet de santé.
Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre sur Carnet de santé. Étourdissement, difficulté soudaine à s'exprimer, confusion, ce sont des symptômes qui indiquent souvent un accident vasculaire cérébral ou AVC. Un AVC résulte de l'interruption de la circulation sanguine dans le cerveau. En général, quand un vaisseau sanguin éclate ou est bloqué par un caillot de sang. Lorsqu'il y a AVC, c'est une course contre la montre où chaque minute compte. Les accidents vasculaires cérébraux sont la deuxième cause de mortalité dans le monde et dans les pays en voie de développement. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 70% des AVC et 87% des décès et handicaps liés aux AVC ont lieu dans les pays à revenus faibles et intermédiaires. Rendons-nous tout de suite au Kenya, où un docteur s'attelle au bien-être des patients qui ont été victimes d'AVC.
Une des choses que nous ne faisons pas en tant que pays, c'est de créer des unités de traitement des AVC. Les études menées en Europe et dans d'autres parties du monde ont montré qu'une unité d'AVC réduit considérablement le risque de décès ou de handicap lié à un AVC. Mais ce que nous savons à partir des données disponibles, c'est que plus de femmes que d'hommes sont touchées dans différentes études menées en Afrique et dans des études hospitalières menées au Kenya, on a constaté que le ratio était de 1 à 2 ou de 1 à 4. Il y avait donc plus de femmes que d'hommes. La plupart des facteurs de risque d'un AVC sont potentiellement évitables. Évidemment, vous ne pouvez rien faire contre le vieillissement qui est un facteur de risque majeur, mais vous pouvez faire quelque chose contre le tabac, l'alcool, la prise de poids excessive. Essayer de contrôler les problèmes cardiovasculaires peut aider à prévenir l'hypertension artérielle et le diabète et, le cas échéant, gérer ces maladies.
Alors, pour en savoir plus sur les AVC, nous avons en studio avec nous le docteur Guillaume Lamotte, ambassadeur bénévole pour l'American Heart Association et chercheur à l'hôpital universitaire MedStar Georgetown. Docteur Lamotte, merci de nous rejoindre.
Merci de m'accueillir.
Alors, il y a plus d'un type d'AVC. Pouvez-vous nous parler du genre d'AVC, des différents types, mais peut-être ceux qui sont les plus fréquents?
Tout à fait. Il y a deux principaux types d'accident vasculaire cérébral.
Oui.
Le premier type, c'est ce qu'on appelle accident vasculaire cérébral ischémique.
Oui.
C'est le plus courant, c'est celui dont on entend parler à la télévision. Et donc c'est quand il y a un des vaisseaux qui part au cerveau qui est bouché par un thrombus, par un caillot de sang. Donc il y a une partie du cerveau qui ne reçoit pas assez de sang et ça donne un accident vasculaire cérébral. Le deuxième type d'AVC, c'est l'AVC hémorragique. Et cette fois-ci, ce n'est pas un thrombus ou un caillot qui est dans l'artère, mais c'est une partie du vaisseau qui... Il y a une rupture d'une partie du vaisseau et il y a du sang directement dans une partie du cerveau.
Donc. Alors, que faire en cas d'AVC? C'est-à-dire que si quelqu'un est quelque part et voit une autre personne qui présente des signes d'AVC, que faire? Quelle est la meilleure réaction alors?
Le plus important, c'est d'appeler le 911 aux États-Unis.
Oui.
C'est d'appeler les secours, puisque en fonction du temps où le malade va arriver à l'hôpital, il y a des possibilités. quantités de traitements que l'on peut administrer en urgence qui peuvent changer la qualité de vie du malade dans le futur.
Donc, c'est une course à la montre.
C'est une course à la montre.
Donc, parlons de signes, parce qu'il faut déjà les reconnaître. Hein. Quels sont les signes?
Alors, il y a un acronyme qui est utilisé aux États-Unis, c'est l'acronyme FAST. Donc F, c'est pour face, donc c'est
le visage.
Oui. Donc toute une asymétrie du visage ou une paralysie du visage d'un côté, à droite ou à gauche. Il y a aussi A, c'est pour arm, donc pour le bras, mais ça s'applique également à la jambe. Donc on va regarder tous les signes comme une faiblesse de la jambe ou un manque de force au niveau du bras ou au niveau de la jambe. Mais ça peut être également une perte de la sensation au niveau du bras ou au niveau de la jambe. Ensuite, S, c'est pour speech, donc c'est pour la parole. Donc là, on va regarder quelqu'un qui n'arrive pas à trouver ses mots, par exemple, ou qui parle d'une façon qui n'a pas de sens.
Incohérente,
exactement. Et T, c'est peut-être le plus important, mais on a déjà mentionné ça, c'est time, c'est temps.
Le temps qui est très important. Alors, nous avons des questions de nos téléspectateurs. Et nous avons le téléspectateur de Ouagadougou, qui est Wend Kouni Ilboudo. Et il souhaiterait savoir, docteur Lamotte, y a-t-il une tranche d'âge où l'AVC est plus fréquent?
Alors, il y a une tranche d'âge où l'AVC est plus fréquent. Le plus souvent, on voit les patients qui souffrent d'un accident vasculaire cérébral après 45-50 ans, entre 50 et après, il n'y a pas de tranche d'âge supérieure, mais après 50 ans, c'est la tranche d'âge à risque. Cependant, on voit également des accidents vasculaires cérébrales chez les jeunes. Vous savez, on voit des gens de 20 ans, de 30 ans avec un accident vasculaire cérébral. C'est-à-dire que s'il y a les symptômes, même si quelqu'un a moins de 40 ans, il faut penser à l'accident vasculaire cérébral et il faut l'emmener à l'hôpital le plus vite possible.
Et quelles sont les recommandations du American Heart Association concernant la prévention?
Alors la prévention, il y a deux types de prévention. Il y a la prévention qu'on appelle la prévention secondaire, après avoir eu un accident vasculaire cérébral. Ouais. Et il y a la prévention primaire pour les personnes qui n'ont pas eu d'accident vasculaire cérébral et pour prévenir un AVC. Donc, je ne sais pas de quel type de prévention vous voulez parler. Si on parle de la prévention secondaire après un accident vasculaire cérébral,
peut-être même avant un accident
vasculaire cérébral. Donc,
la nutrition, peut-être ce genre de.
Alors, pour la nutrition, par exemple, il y a peu de données, mais les choses que l'on sait à partir de plusieurs études qui ont été faites, c'est que il faut manger un peu de tout, un peu de healthy,
équilibré
et sain. Et il semble que la nutrition à partir de la diet, Mediterranean diet, donc à base de
fruits, légumes,
exactement.
Ouais, pas trop gras.
Pas trop de viande rouge, plus de viande blanche. Beaucoup de noix, par exemple. Ouais. Ça semble être un des régimes ou nutrition qui permettrait de prévenir les accidents vasculaires cérébraux.
Docteur Lamotte, merci beaucoup de nous avoir rejoints aujourd'hui.
De rien, merci beaucoup de m'avoir accueilli.
Dans notre prochaine édition de Carnet de Santé, nous parlerons des infirmières et de leur rôle très important dans le domaine de la santé. Si vous avez des questions ou pour toutes vos réactions, rejoignez-nous sur notre page Facebook VOA Afrique ainsi que sur notre site web www.voaafrique.com. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter, @linormoudou. C'est la fin de cette édition de Carnet de Santé. Merci de nous avoir suivis. D'ici la semaine prochaine et à très bientôt.
Chers auditeurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission « Votre santé, votre avenir ». Il était centré sur la grippe anophytose. Nous nous sommes entretenus avec le professeur Alexis Elira de Vitias, spécialiste de la grippe anophytose et chef du service hématologique au CHU de Brazzaville. Il est aussi le directeur général du Centre national de référence de la grippe anophytose de Brazzaville au Congo. Le professeur Elisa de Kekias nous a parlé de la transmission de cette maladie génétique héréditaire, du dépistage et de la prise en charge. Il a aussi répondu à toutes les questions que vous avez laissées sur la page Facebook de VOA Afrique. Vous avez également suivi Carnet de santé avec Linor Moudou. Ce magazine santé a été réalisé grâce au concours de Chef Thierry. À la présentation, Nanit Talani. Continuez d'écouter VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé, car votre santé, c'est votre avenir.
C'était Votre santé, votre avenir, une production de VOA Afrique. Pour vos commentaires, vos questions ou vos témoignages, retrouvez-nous sur VOA Afrique.